marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La radio-diffusion française vous invite à écouter...
Nous aimions le luxe, ce riche cousin du confort.
Les déplacements du luxe.
Lux Today, Lux This Week, Lux This Month, voici vos programmes et toute l'actualité de l'univers du luxe dans des sujets en anglais et en français, renouvelés en permanence. Les meilleurs reportages de Lux TV, retrouvez-les également en Ultra HD 4K sur une toute nouvelle app développée pour iPhone et iPad. Son nom, Lux TV Player, à télécharger en anglais ou en français via l'Apple Store. En Asie ou en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient, ou encore aux États-Unis, regardez Lux TV où que vous soyez. Lux TV, your luxury channel.
Voici une chaîne de télé thématique qui émet sans désemparer depuis 12 ans et qui est consacrée au luxe. L'extension géographique de sa clientèle en dit long sur les déplacements de celui-ci. Elle est basée à Luxembourg. Ses programmes sont en français et en anglais à l'origine, mais aussi en russe et maintenant en mandarin. On connaît la rengaine des industriels du secteur. En Chine, entre les super riches et la classe moyenne, émerge une classe moyenne supérieure qu'il faut absolument toucher. 2% de Chinois en valeur absolue, ça fait beaucoup de monde. Lux TV consacre les rubriques qui conviennent aux yachts d'exception ou aux voitures les plus chères. Par exemple, la Jaguar, dont la construction a été interrompue en 57 et qu'on va reprendre pour quelques exemplaires numérotés. Mais bientôt, on se heurte à une contradiction. La circulation du luxe porte en elle sa propre négation. Une chaîne télé susceptible d'entrer partout. Peut-être 4000 boutiques des marques de LVMH dans le monde, des sacs Vuitton dans n'importe quelle main. La banalisation guette. Alors une méthode est d'associer luxe et art contemporain. Chaque secteur y trouve son profit matériel. C'est ainsi que Vuitton s'est associé avec Jeff Koons qui lui a fabriqué un sac d'exception. Un tableau de Van Gogh sur le flanc, un petit lapin gonflable à l'anse, le logo de l'artiste qui double celui de la marque et hop, le taux de satisfaction s'envole. Une autre méthode est de partir sur la piste de l'authenticité, pour ne pas parler de la pureté. Mais alors, il n'est plus seulement question de prix, d'où l'utilité, dans la visite du pays du luxe, d'un ethnologue ou d'un anthropologue qui sache parler de l'incommensurable.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
C'est le cas de Marc Abélez, bonjour.
Bonjour.
Un ethnologue au pays du luxe. Aux éditions Odile Jacob. Vous êtes toujours... Enfin, vous n'êtes jamais là où on vous attendait. Les épisodes précédents, enfin j'en dis quelques-uns au hasard, Lyon, l'Assemblée nationale, l'Organisation mondiale du commerce, et vous là maintenant en Chine, et pas seulement avec ce livre. D'habitude, Marc Abélez, quand un chercheur considère la mode ou le luxe, il va regarder des objets, vous savez, Roland Barthes, qui est capable de parler de la cocotte minute, il va vous parler d'un objet du luxe.
Oui, Roland Barthes a parlé de la mode, et a fait un livre magnifique sur le qui s'appelait « Système de la mode ». Et Barthes a dit cette chose qui me paraît très intéressante, que le luxe, c'est aussi un objet poétique, c'est-à-dire c'est un objet qu'on doit aussi intellectuellement construire, pas seulement un objet qu'on regarde ou qu'on... qui vous fascine, mais quelque chose sur lequel on peut penser. Et moi, mon idée, c'est qu'on peut effectivement penser, réfléchir sur le luxe. Pourquoi ? Pas seulement pour la fascination du luxe, mais aussi parce que le luxe nous dit quelque chose sur notre société. C'est un phénomène social très, très important aujourd'hui.
Alors, les historiens se sont intéressés, bien sûr, au luxe. On va prendre un exemple que vous citez, vous faites le rapprochement entre l'époque d'aujourd'hui et l'époque du Second Empire. Avant le Second Empire, la monarchie constitutionnelle, les châtelains vivent entre châtelains, leurs pères, et ils vivent l'hiver dans des salons où ils reçoivent leurs pères, mais les gens se ressemblent, il n'y a pas d'étalage extraordinaire de splendeur. Tandis que sous le Second Empire, la fête impériale, le ruissellement qui descend de la cour vers les classes bourgeoises.
Sous le règne de notre bon empereur Napoléon III, que Dieu garde en cette année 1862 qui commence, c'est le bourgeois qui se sent un peu roi. Ce qui porte blason, nous lui accordons crédit. Je vous introduirai dans ce Paris tout neuf qu'a inventé Haussmann. Quel gai Paris.
Oh, chère madame, ça n'est pas bien.
Quoi donc?
On était convenus de ne pas faire de toilette et vous en avez une éblouissante. Mon petit dîner va pâlir.
Oh, tout cela est bien simple.
Ma femme n'en fera pas, elle, et je suis sûre qu'elle vous grondera. La voici.
Chère bonne madame!
Ah, ça prend l'autre une montgolfière.
Que vous avez là?
Trois rangs de volants, c'est de la trahison. Quelle admirable toilette!
Elle n'égale pas la vôtre. Une robe en or, c'est de la mauvaise foi.
Je puis donc vous dire ce qui était galant dans ce temps-là. Les leçons du Premier Empire s'ajoutant à des leçons anciennes, nous avons eu des sièges nés de mariages de style. Horrible, disaient les puristes. Ma foi, nous les trouvions seulement audacieux. Leur décoration était surchargée, je l'avoue. Mais nous aimions le luxe. Ce riche cousin du confort.
On aura reconnu un extrait de La poudre aux yeux de La Biche. Tout ça, c'est pas bien honnête, disent les historiens.
Alors, les historiens, et souvent ceux qui abordent la question du luxe, ont une vision un peu moralisante, disons, de ce phénomène. En réalité, je crois que à la base même du luxe, si on prend l'étymologie latine, il y a deux mots qui sont luxus et luxuria, et il y a toujours cette sorte d'ambivalence entre l'idée de luxe et l'idée de luxure. Et c'est peut-être une des difficultés quand on aborde le sujet, c'est de ne pas être immédiatement pris dans une sorte de préjugé qui consisterait à dire que le luxe c'est quelque chose qui n'est pas bien et qui n'est en fait qu'accessible qu'aux très riches et qui ne doit pas même être recherché par des gens qui sont dans des conditions modestes.
Oui, enfin, il y a tout de même une connotation illégitime. Il y a un grand sociologue, passons sociologue maintenant, Werner Sombart, allemand, qui dit « Le luxe, c'est l'enfant légitime des amours illégitimes ». Alors, Madame du Barry, sous Louis XV, la comtesse de Castiglione, sous le Second Empire.
Oui, tout à fait. Sombart explique qu'au fond, le luxe est né quand il y a des formes d'amour qui sont des formes d'amour adultère, qu'il y a un sens du plaisir, un sens du corps. Il parle des courtisanes, des maîtresses, etc. Et que à ce moment-là, peu à peu, pour satisfaire justement tous les goûts de ces personnes, on s'intéresse de plus en plus aux broderies, aux soieries, etc. Et on commence à créer une sorte de marché qui est le marché du luxe. C'est le marché du luxe qui trouve un moment très fort au XVIIe, XVIIIe siècle et qui va lancer aussi toute une industrie. Et Sombart va très loin parce qu'il dit qu'au fond, c'est non seulement le luxe et l'enfant des amours illégitimes, mais que le capitalisme est aussi l'enfant du luxe. Il dit que parce qu'on a développé ces marchés-là, parce qu'on a surtout développé d'importantes exportations, à ce moment-là, on a créé quelque chose qui était des formes d'échange qu'on ne connaissait pas auparavant et que, contrairement à ce que disait par exemple Max Weber qui associait le capitaliste à une sorte d'une forme d'ascétisme, hein, l'éthique protestante, etc., c'est au contraire une forme de dépense qui a entraîné avec elle le développement du
capitalisme. Oui, mais enfin, c'est un peu improductif quand même, Marc Abeles. Allez, un dernier nom de sociologue, un type assez extraordinaire, un Norvégien d'origine, dont la famille luthérienne austère avait émigré aux États-Unis. Il s'appelait Veblen, et un peu après le Second Empire, 1899, la théorie de la classe de loisirs. Il y a une classe de loisirs improductive qui ne pense qu'à l'ostentation et à la distinction.
Oui, Veblen considère que l'ostentation est un élément important de la vie des sociétés. Et que, justement, ceux qui disent que le luxe est uniquement du superflu, du n'importe quoi, de l'éphémère, ils ne comprennent pas que ça rencontre un phénomène beaucoup plus profond, qui est cette nécessité de se montrer. Et qu'au fond, le luxe a, comme il dit, une fonction. C'est une conception fonctionnaliste du luxe. Donc, quels que soient les milieux sociaux, dans chaque milieu, il y aura des gens qui vont se montrer un peu plus fortunés, un peu plus que les autres. Et grâce à ces objets, grâce à cet apparaître, ce paraître.
Et aux manières aussi, enfin. Grâce à des manières. Un style de pantalon, un style de pli de pantalon.
Le style, ou même un certain chic, comme dit Barthes qui reprend cette idée de chic, et ça me paraît très important aussi. Bref, il y a toutes sortes d'adjectifs qui qualifient aussi ce qui fait l'unique.
Je comprends bien toute cette analyse théorique avec les sémiologues Barthes, les historiens, les sociologues. Qu'est-ce qu'un ethnologue? Quelqu'un qui, comme vous, a commencé, élève de Lévi-Strauss sur un terrain éthiopien, peut apporter, je disais, l'incommensurable.
Je pense que effectivement, il y a dans l'ethnologie, dans l'anthropologie, il y a tout un courant d'études depuis ses débuts qui concerne ce qu'on pourrait appeler les objets précieux, qui concerne l'intérêt des sociétés. Par exemple, Marshall Salins, un très grand anthropologue, parlait des premières sociétés d'abondance. Il parlait de sociétés qui étaient considérées comme entre guillemets très primitives et qui, malgré cela, passaient une partie de leur temps à faire des cérémonies, à faire aussi toutes sortes d'étalages de biens de prestige, etc. Donc ça veut dire qu'un peu partout et de manière universelle, et c'est là que l'anthropologue a quelque chose à dire, parce que c'est un phénomène universel et c'est aussi quelque chose qui rencontre ce que nous on appelle l'anthropologie économique, c'est-à-dire qui nous parle aussi de la circulation d'un certain nombre de marchandises qui ne sont pas les marchandises des biens du commun en quelque sorte.
Circulation, géographie maintenant. Un cinquième du marché du luxe, c'est en Chine.
D'après moi, avoir un sac à main griffé est le rêve de chaque fille. Chaque fille devrait avoir un sac à main.
Comme mon salaire n'est pas très élevé, quand je veux acheter un sac, je demande à ma famille de l'argent. Je pense que si vous regardez les femmes d'il y a 10 ans, vous remarquerez que beaucoup d'entre elles étaient capables de dépenser tout un salaire juste pour avoir le sac, et c'était suffisant. Mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment afficher votre statut, le sac ne suffit plus, parce que vos amis remarqueront que vous portez chaque jour le même sac. Vous avez besoin de changer afin de prouver votre valeur.
Un cinquième du marché du luxe, des boutiques LVMH partout.
Absolument, oui.
Parce que vous allez beaucoup en Chine.
Oui, je vais beaucoup en Chine et c'est un peu ça qui m'a incité à travailler sur cette question. Le luxe est extrêmement présent. Et alors, il est présent, en fait, de deux manières. Il est présent dans les zones, ce qu'on appelle les malls, ces zones de grands magasins, on dirait ici, où il y a des malls entiers consacrés au luxe. Et vous allez me dire, il y a peut-être tant de consommateurs que ça. Non, non. Mais c'est, pour les Chinois, c'est une image qu'on leur donne en permanence. Et par exemple, j'étais dans le métro de Hong Kong. Dans le métro de Hong Kong, vous avez un long tapis roulant et tout autour, c'est Givenchy. C'est le rouge à lèvres de Givenchy qui est exposé. Alors, les gens qui ne vont pas tous acheter du Givenchy compte tenu des prix, etc. Mais en même temps, progressivement, moi je dis le luxe, il remplace quelque part le petit livre rouge, quoi. Si je voulais être un petit peu violent comme ça, je dirais parce que peu à peu, on incruste dans la pensée des gens cette idée d'un avenir radieux qui serait un avenir justement, pouvoir s'acheter des sacs, pouvoir s'acheter tous ces biens auxquels ils pourraient avoir un jour accès.
Ça, c'est le trottoir social roulant, l'accès vers les classes moyennes supérieures. Et puis alors, tout en haut, au sommet, les milliardaires qui doivent faire l'apprentissage des manières qui vont avec le luxe. On ne va pas aller chercher recours dans les coutumes de politesse mandarinale. On va plutôt imiter les coutumes anglaises. Ici, on a mêlé le récit de ce qui se passe dans les écoles de majordome en Chine et puis le vieux soubassement d'Anton Abbey, vous savez, la grande série sur l'immense château anglais peuplé de domestiques.
Ah, monsieur Mosley, vous tombez bien. Pouvez-vous jeter un coup d'œil sur la table du dîner? Je n'aurai pas le temps de le faire et comme vous êtes premier valet...
C'est que j'allais...
Tant que vous y êtes, pourriez-vous vérifier les chambres de Lady Flintshire et de monsieur Bricker? Je n'ai pas eu un moment et comme dit monsieur Carson, vous êtes premier valet.
Je suis prête.
Je suis en train de mesurer la distance entre les couteaux et les fourchettes.
Ils viennent de toute la Chine. Ont déboursé 7000 euros pour 6 semaines d'apprentissage à l'Occidental, sous le regard d'un Hollandais ancien majordome, désormais directeur de l'école. Le directeur dispense ses exercices, ludiques, en conditions presque réelles. Les majordomes doivent protéger leur plateau.
Attention à vos plateaux.
Comme s'ils étaient dans une salle remplie d'invités.
C'est un exercice de base ici, très formateur et très amusant. Ça nous permet de tester notre équilibre.
Les riches clients chinois sont de plus en plus nombreux à embaucher des majordomes formés dans cette école. Pour répondre à cette demande, un second établissement doit ouvrir à Shanghai, d'ici l'année prochaine.
Il y a une part d'imitation, il y a aussi une part de revanche, parce que c'est quand même plaisant pour un riche chinois d'avoir un domestique anglais, hollandais ou français.
Oui, c'est plaisant. En même temps, il faut s'ajuster. Par exemple, je connaissais un professeur de l'Académie d'art de Pékin, qui améliorait ses revenus en emmenant des groupes, justement, aux États-Unis et dans des pays européens, des groupes qui étaient des clients, en fait, d'une grande banque, qui rémunérait ce professeur pour les introduire, justement, aux bonnes manières, avec des experts de ces différents pays. Donc c'était vraiment une volonté aussi d'accéder à cet univers, mais d'accéder sans pour autant avoir, je veux dire, une attitude nécessairement humble. Au contraire, c'est pour eux une preuve de réussite, c'est pour eux une preuve de... Justement, et leur idée, ça c'est très important, c'est qu'eux-mêmes, ils vont développer leur propre ligne de luxe. Ils vont aussi créer des objets, ils vont aussi créer des nouvelles...
Alors ça existe dans le domaine du parfum, ça existe vraiment dans le domaine de la mode et du vêtement.
Ça commence à se développer dans le domaine aussi des chaussures, aussi des tissus. On revient, alors c'est ça qui est intéressant pour prendre le cas de la mode, on revient à toute une série de tissus traditionnels qu'on est en train de développer. Et j'ai participé il n'y a pas très longtemps à un colloque avec un expert chinois qui connaissait bien ces questions et qui nous expliquait comment justement on était en train de réfléchir à des formes de mode authentiquement chinoises, c'est-à-dire qui jouent sur, un peu comme on a en France, sur un jeu entre la tradition et puis quelque chose qui serait axé sur le futur. Donc il y a véritablement une volonté de se préparer et je pense que pour l'avenir ça va être important.
Les industries de luxe occidentales ne peuvent pas être arrogantes. Alors, soit elle développe des sous-marques, soit elle protège les marques qui naissent. Il faut pas être maladroit. Vous racontez une histoire très intéressante avec vous, Yuan, avec un propriétaire de Mercedes.
Oui, ben voilà, c'est justement l'un des reproches qu'on fait aux producteurs des pays occidentaux, c'est quelquefois de donner des sortes de sous-produits et pas véritablement des produits tout à fait authentiques. Et là, ça s'est cristallisé sur une Mercedes qui, pour des raisons ou d'autres, ne démarrait plus. Et on a changé à plusieurs reprises, on a essayé de changer des pièces et tout. Et finalement, Mercedes a dit, c'est le problème du carburant chinois qui est pas bon et tout. Alors là, il y a eu une crise et on a pris la Mercedes et on l'a traînée avec des buffles jusqu'à la grande place. Et on l'a sacrifié en quelque sorte. Il y a eu un grand rituel et on a tabassé la Mercedes, on a cassé les vitres, on a tout cassé pour montrer qu'on ne se laisserait pas faire par l'arrogance de ces occidentaux.
Marc Abélès donc publie Un ethnologue au pays du luxe et il centre beaucoup sa recherche sur la Chine.
Je suis une croqueuse de diamants. Oui, le diamant, c'est ma nourriture. Il convient à ma nature. J'aime quand ça me crisse sous la dent. Dès que ça brille, je suis hors de moi. J'hésite pas un seul instant. Et je bondis sur ma proie. Je suis une croque de diamant.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Splendeur impériale, un titre à la fois magique et vertigineux, pour évoquer l'exposition de Chaumet qui vient d'ouvrir au cœur de la cité interdite à Pékin. 300 objets réunis, comprenant des peintures, des œuvres d'art, des dessins et bien sûr les créations de cette maison de joaillerie née en 1780.
Le musée du Palais, dite la cité interdite, est un lieu symbolique, est un lieu d'éternité. C'était notre ambition que de montrer ces 300 joyaux ici.
Un parcours retraçant l'histoire de la maison, mais aussi sa proximité avec les grands souverains, avec la présence de pièces exceptionnelles, comme par exemple l'épée du sacre de Napoléon Ier, prêtée par le musée du Louvre. Un parallèle est également réalisé avec la Chine, en mettant en exergue 22 bijoux du musée du Palais de Pékin avec 22 créations de la maison Chaumet, inspirées de l'Extrême-Orient.
C'était l'opportunité de faire se rencontrer deux cultures. Et nous avions l'ambition de faire une exposition exceptionnelle.
Un véritable patrimoine français, avec une légitimité historique et impériale, et des symboles comme le diadème qui ont traversé les siècles. Et une première pour la cité interdite, d'ouvrir pendant près de 3 mois ses portes pour une exposition d'une telle envergure.
La Chine, nouveau pays du luxe, vous aurez noté, Marc Abélès, vous qui avez l'esprit caustique, le caractère très critique de ce reportage. Un jour, comme c'est toujours les mêmes mots qui sont composés, un robot pourra composer les textes, et puis une voix d'ailleurs, pourra être remplacée par le même robot. Dans la Chine, de l'empire du milieu. Prenez un exemple de 1800. L'idée de faire venir, sous forme de cadeaux, par exemple, diplomatiques, des objets de l'industrie de luxe occidentale ne venait pas.
Si, il y a eu effectivement un des souverains britanniques, un des rois George de l'époque.
George III. Non, mais III. Je sais que vous êtes ethnologue, mais ici on fait de l'histoire. Alors George III, oui.
Donc George III, pour tout dire, est venu avec une quantité.
Enfin, ambassadeur.
Un ambassadeur, oui. Alors donc l'ambassadeur de George III est venu avec une quantité de cadeaux qui représentaient les fleurons de l'industrie britannique. Et il a prétendu donc les remettre à l'empereur. Et grande déception, l'empereur n'en voulait pas. L'empereur ne comprenait pas, ne voyait pas l'intérêt de ce genre de don et considérait que si les Britanniques voulaient payer un tribut, c'était bien. S'ils voulaient être comme ceux qui sont ceux qui étaient les vassaux de la Chine, mais pour le reste, ils n'étaient pas vraiment intéressés. Et bien que ce fussent des choses extraordinaires du point de vue de la technologie de l'époque, finalement, les Chinois sont restés sur leur compte à soi, si on peut dire.
Mais maintenant, au cœur du pouvoir impérial d'autrefois, des objets du Louvre et des objets de Chaumet qui se font face. Alors, c'est l'illustration d'une stratégie habile des marques de luxe. Monsieur Arnault, par exemple, il ne peut plus passer pour un prédateur qui aurait racheté Boussac à bas prix ou pour un dissimulateur qui ne paierait pas beaucoup d'impôts. Non, non, il est un mécène et un bienfaiteur et sa stratégie va consister à associer luxe et art. Art patrimonial, ça peut aussi être l'art contemporain.
Oui, je pense que la stratégie qui s'est développée, d'ailleurs également c'est le cas de François Pinault là, qui a créé aussi ce groupe très important qui est le groupe Kering. Hein, donc il y a les deux groupes, LVMH, Kering. Et la stratégie un peu parallèle, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme de grands collectionneurs. Ils s'intéressent, ils ont certaines maisons d'enchères. Bref, ils soutiennent des artistes. Et on a véritablement, et c'est ça qui est assez intéressant dans les 20 dernières années, c'est une sorte de rapprochement incroyable entre l'art, et là je parle surtout de l'art contemporain, et puis le développement de ces maisons. Et on parlait tout à l'heure du cas de Jeff Koons et de ce fameux sac Vuitton là, qui a été inauguré en grande pompe devant la Joconde. Il faut voir aussi que ça s'est passé au Louvre. Là aussi, il y a eu une soirée Louvre pour inaugurer les sacs Vuitton.
On peut redonner peut-être les caractéristiques de ce sac d'exception.
Le sac d'exception reprenait effectivement des œuvres exposées au Louvre, donc des grandes œuvres d'art classiques,
Van Gogh,
etc.
Oui.
Donc c'était ça la grande idée. Mais relooké, on peut dire, ou réadapté, réajusté par Koons. De même, il y a eu, par exemple, l'artiste japonais Murakami qui a participé aussi à l'élaboration des sacs. Et c'est curieux parce que chez Vuitton, il y a ce qu'on appelle les amis de Vuitton. J'ai vu ça dans un catalogue où on a un certain nombre d'artistes qui sont clairement identifiés comme étant les amis, donc qui travaillent d'une manière ou d'une autre avec Vuitton. Donc là, il y a une sorte de synergie, si on peut dire, pour le mot actuel, entre l'art et donc ces objets de luxe.
Ça peut aussi être de l'art patrimonial. Alors, vous citez un cas, la scène de Vinci, réinterprétée par un photographe chinois, qui fait poser en lieu et place des apôtres, des mannequins habillés en Dior.
Oui, et ça s'est passé à Pékin aussi. Ouais. Et ça, c'est tout à fait important parce que là aussi, c'était un moyen de promouvoir aussi la collection Dior. Et c'était, je crois, à l'époque de Galliano, enfin quelque chose d'important et qui était aussi sous la houlette de Bernard Arnault. Et c'est vrai que Bernard Arnault s'est montré très, très créatif, si on peut dire, dans le développement et dans la rentabilisation, en quelque sorte, de ces rapports entre l'art contemporain et le luxe.
Je vois que vous développez votre esprit caustique. Alors, avec cet esprit critique, vous pouvez nous décrire les grands lieux de l'art contemporain parce que l'art contemporain chinois s'introduit dans le monde avec les amis des grandes marques, avec quelques noms sur lesquels se concentre la lumière, grâce à cette stratégie des marques de luxe européennes.
Oui, c'est grâce à cette stratégie, c'est grâce aussi, je pense, à l'appui à l'ouverture qui a été pratiquée par le gouvernement chinois. Dans l'idée de soft power, et ils ont envoyé les Chinois à la Biennale de Venise, etc. Et progressivement, ça s'est développé très 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 rapidement. Et ils ont été aidés en cela au départ par les dépenses des collectionneurs occidentaux. Mais depuis un certain temps, les choses se sont quasiment inversées, puisqu'il y a maintenant une clientèle chinoise très importante. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des lieux qui sont les foires d'art contemporain. Les foires d'art contemporain, si vous voulez, ont explosé, en fait, depuis une dizaine d'années, à tel point que, moi, j'ai suivi une foire qui s'appelle Art Basel, mais Art Basel est une énorme entreprise qui concentre en fait la foire d'art de Bâle, qui est un classique créé dans les années 70, et puis une nouvelle foire créée au début de l'année 2000, qui est la foire de Miami, et puis dernière en date, la foire de Hong Kong. Et vous avez donc, par exemple, pour donner un chiffre, 90 000 visiteurs à la foire de Bâle en 2014, 4 000 artistes, 250 galeries. Enfin, ça donne des idées des chiffres et de la fréquentation, du fait que ça, à la fois, ça attire des collectionneurs, ce qui était le but initial pour faire des achats, etc. Mais aussi tout un monde, tout un public. Et c'est un peu comme les malls de luxe. Je fais une comparaison là aussi parce que ces gens passent leur journée là-dedans. Il y a des queues invraisemblables pour rentrer dans ces foires. On a à la fois la FIAC à Paris, mais Art Basel, c'est un truc gigantesque.
Oui, mais alors, on se dit, quand on est à la recherche de soi, d'un luxe pour soi, on va tout de même pas faire la queue. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui vous entourent? Et encore, n'a-t-on pas parlé de la contrefaçon? Alors, où retrouver la pureté, l'authenticité? Alors, voilà un site, les hôtels de rêve. C'est pas un hôtel.
Non.
C'est beaucoup mieux. On est chez des amis et des amis de qualité qui se sont établis au bout d'une péninsule dans l'île de Bali.
L'hôtel ne compte que 5 villas disséminées sur près de 5 hectares le long de la rivière sacrée Ayung. Les Balinais, à la fois hindouistes et animistes, accordent en effet beaucoup d'importance aux éléments. Pour eux, les dieux vivent sur les hauteurs, dans les montagnes, les humains dans les plaines, tandis que la mer abrite des démons et les mauvais esprits. L'architecture s'est donc beaucoup inspirée de cette cosmogonie et l'eau tient une place très importante au Begawangiri. Trois sources traversent en effet le domaine et se rejoignent pour former une cascade. Les piscines, jacuzzi et autres baignoires rappelle l'importance que revêt l'eau et s'intègre parfaitement dans leur environnement.
La sensation et l'atmosphère que nous voulons amener aux clients est un luxe absolu, une intimité extrême et du calme.
Luxe, calme et volupté. Vous me direz, on aimerait une voix, comment dire, plus sensuelle, plus personnelle, moins automatique. Ce serait peut-être plus luxueux, mais alors, cette tendance qui naît des contradictions mêmes du système que vous venez de décrire et qui fait rechercher une manière de simplicité, laquelle doit avoir le coût le plus élevé quand même.
Oui, alors il y a parmi des interlocuteurs chinois que j'ai pu connaître, une idée qu'au fond, dans la phase antérieure, quand ils ont découvert le luxe, ils se sont conduits comme des sortes de nouveaux riches, quoi. Ils achetaient des Ferrari et tout ça. Et ça les intéresse beaucoup moins maintenant. Et justement, ils veulent en venir à des nourritures beaucoup plus spirituelles. Alors pour ce faire, ils s'offrent un lama. Un lama, pas un animal, mais un lama, c'est une sorte de sage, de prêtre, oui, de chaman, etc., qui vont payer des fortunes pour leur enseigner la sagesse, ils vont entretenir un temple, etc. Ça, c'est la quintessence du nouveau luxe. C'est revenir en soi-même. Et pas pour des raisons d'ostentation. On sait qu'ils le font, mais leur idée, c'est qu'ils ont dépassé le stade de l'ostentation, ils ont dépassé le stade de la dépense purement matérielle, donc on arriverait, et c'est un peu parallèle à ce que vous citiez à propos de lieux qui sont des lieux aussi qui requièrent une forme d'intériorité et qui, au fond, ne sont pas quantifiables. Et là, on arrive à cette idée que je développe au début du livre, qui est l'idée que le luxe, c'est ce qui n'a pas de prix, quoi. Ce qui n'a pas de prix, alors souvent on dit ça veut dire que c'est très cher, mais là pour le coup c'est que c'est encore plus que cher, on n'est plus dans l'ordre d'une sorte de valeur matérialisable.
Ah bah là ça vous réconcilie avec vos collègues qui regardaient le sourcil haussé, ce thème de recherche qui est le vôtre, Marc Abelès, non?
Oui, dans une certaine mesure, je pense qu'il pourrait s'y retrouver.
Il y a une anthropologie, une chaire d'anthropologie du luxe que vous animez?
Oui, au Collège d'études mondiales de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, oui, et nous organisons... très bientôt, d'ailleurs, une chose sur l'anthropologie des biens précieux, sur les trésors sacrés, auxquels participeront d'éminents spécialistes.
trésor sacré de la marche de l'histoire, Audrey Ripouille, qui a co-réalisé cette émission avec Ilinka Negulesco et avec Étienne Bertin. Nous sommes très nombreux aujourd'hui. C'est le luxe. Franck Olivard a préparé cette émission. Tristan Gratalon était à la technique.